Et notre invité ce matin dans le 8:30, Monseigneur Emmanuel Gobillard, bonjour.
Bonjour.
Nouvel évêque du diocèse de Digne, Ries et Sisteron, vous avez fait votre arrivée en décembre dernier. Si, en trois mots, en trois adjectifs, vous deviez définir votre fonction au sein du diocèse des Alpes de Provence, ce serait quoi? Trois mots, trois adjectifs?
Alors, je ne sais pas si ce sont trois adjectifs, mais c'est sûr qu'il y a le contact. D'abord, entrer en contact, en relation avec les personnes. Pour moi, c'est toujours le cœur de la relation pastorale, du travail d'un prêtre ou d'un évêque. Et donc, il y a cette dimension. Il y a la dimension du discernement, c'est-à-dire qu'on voit plein de réalités qui sont magnifiques. Et puis, on attend de moi peut-être aussi que j'entraîne le diocèse dans une direction. Donc j'ai besoin de savoir qui sont ces gens, qui sont ces diocèses, ces paroisses, ces personnes qui me sont confiées et vers où le Seigneur veut les conduire, quoi. L'Évangile, c'est notre boussole, mais il faut leur donner aussi des indications parfois plus précises. Mmh. Et puis, j'allais dire émerveillement.
C'est-à-dire
émerveillement. Au sens de la surprise, se laisser toucher, quoi, se laisser émerveiller par ce qu'on découvre. Pas d'abord par les paysages. Alors bien sûr, tout le monde me parle des paysages. Et puis effectivement, c'est juste époustouflant d'aller à Alos, à Barcelonnette, à Seine, dans tous ces coins. Voilà, j'étais à Ries dimanche. Donc c'est des paysages incroyables. Mais moi, je trouve que le plus beau, c'est de se laisser émerveiller par les personnes, en fait. La beauté des personnes. J'ai presque mon premier repas, ça a été dans une association qui s'occupe de personnes handicapées, et j'ai été accueilli mais vraiment tellement chaleureusement, et on m'a dit des choses tellement belles, quoi, que parfois j'ai juste envie de d'écrire ce qu'on me dit et puis de le répéter aux autres. C'est ce que je fais d'ailleurs parfois.
Alors, vous avez été ordonné prêtre en 97 au sein du diocèse de Puy-en-Velay. Vous êtes aujourd'hui dans les Alpes de Provence, mais vous venez du diocèse de Lyon, un diocèse qui a été marqué par les affaires d'abus sexuels. Vous-même, vous en avez parlé sur la chaîne KTO. Je fais référence à l'affaire Prena. Et vous aviez dit, en décembre dernier, ça m'a scandalisé, ça a changé mon cœur. Dans quel sens?
C'est-à-dire que quand on est au contact avec les victimes, quand on écoute leur histoire, bien sûr qu'on est scandalisé par ce qu'ils ont vécu. On est profondément touché. Et en fait, on met bien sûr la dimension humaine en premier, quoi qu'il arrive. Il y a plus le réflexe. On a tous le réflexe de protéger entre guillemets une institution. C'est un réflexe qui est naturel, que j'appelle l'homéostasie. C'est-à-dire que l'homéostasie, vous savez, c'est la réaction d'un corps vivant face à une attaque. Et il attaque lui-même. Par exemple, la sèche, quand elle est attaquée, elle envoie de l'encre. Vous voyez. Et en fait, quand notre famille est attaquée, par exemple, si votre famille vous-même était attaquée, le réflexe naturel, c'est de protéger la famille. Dans l'Église, on avait ce réflexe-là, il n'y a aucun doute. Et c'est un réflexe qui est justement, quand il s'agit d'un corps social, qui est mortifère, qui détruit le corps lui-même. Et ça, je m'en suis aperçu en recevant les victimes, en étant en contact avec elles, en écoutant leur histoire. C'est que, justement, dans les corps sociaux, il faut pas vouloir protéger le corps au détriment des personnes. C'est l'inverse.
Justement, vous le disiez, il faut faire preuve de discernement. C'était l'un des mots que vous avez retenu pour votre arrivée dans les Alpes de Haute-Provence. Est-ce qu'à un moment, l'Église a manqué de discernement? Est-ce que, à force de se protéger, d'être dans l'omerta, au fur et à mesure, elle s'est un petit peu tuée elle-même?
Oui. Je dirais que même parfois l'omerta était même inconsciente. C'est-à-dire que c'était pas du tout un travail autour du fait qu'il fallait protéger. C'était un espèce de réflexe naturel qui était au détriment des autres, de la vérité aussi, et au détriment du fait qu'on a besoin des autres, pas seulement des victimes dans leurs témoignages, mais aussi des autres professionnels. C'est-à-dire que quand on n'est pas juge, on n'est pas policier, on n'a pas les moyens de l'enquête. Et donc, c'est tellement rassurant pour nous de pouvoir se dire, il y a des gens dont c'est le métier, qui sont là pour nous, et c'est un soutien. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vécu positivement, pas comme une menace, mais d'abord comme un soutien, tout ce travail des professionnels de la justice et de la police, par exemple.
Est-ce que le diocèse de Digne, Ries et Sisteron, est resté trop silencieux ces dernières années? On a souvent entendu votre homologue dans les Hautes-Alpes, Monseigneur Xavier Mal, sur le sujet des abus sexuels au sein de l'Église. D'ailleurs, ce matin, dans le journal, on expliquait ce nouveau dispositif qui va être mis en place, cette collaboration avec des professionnels de l'écoute. Du côté des Alpes d'Haute-Provence, ces dernières années, rien ou très peu. Est-ce que vous vous êtes fait la promesse de rompre le silence de l'Église?
Alors, en fait, voilà, effectivement, Monseigneur No était moins disert sur les dans les médias, mais en arrivant ici, je vois que les choses ont été faites. C'est-à-dire que pour moi, le silence, c'est pas d'abord un silence médiatique. C'est-à-dire que la parole n'est pas d'abord une parole médiatique. C'est d'abord une parole aux victimes. Hein. Et cette parole aux victimes, elle peut ne pas du tout être médiatique. Donc, elle peut ne pas être entendue. Ensuite, la deuxième parole, c'est la parole à la justice. Et là, le travail a été fait. Il y a un protocole qui a été signé déjà par mon prédécesseur avec le procureur. Donc, je dirais que le travail est fait. Et le silence qui nous tue, c'est le silence qui nous replie sur nous. À partir du moment où les choses sont dites soit à la justice, soit aux victimes, là, on est complètement sorti du silence. Ensuite, la dimension médiatique, elle est différente. Et elle peut parfois blesser même les victimes. On doit exercer aussi son discernement sur quelles paroles on doit donner. Hein. Moi, mon métier, entre guillemets, à Lyon, a été d'être directeur de la communication. Donc mon métier, ça a été de parler, voyez. Mais d'autres, qui avaient d'autres missions et parfois d'autres contacts avec les victimes, ont été beaucoup plus discrets. Donc je pense qu'il faut les deux. Ensuite, l'essentiel, c'est que le travail soit fait. Là, on est en train de travailler avec les groupes de travail de la CIAZ, hein, donc la commission indépendante pour les abus sexuels dans l'Église, enfin contre les abus sexuels dans l'Église, pardon. Travail. Moi, je fais partie d'un groupe de travail sur les procédures, sur les bonnes pratiques à avoir en cas de soupçon d'infraction. On va essayer de faire en sorte que tous les diocèses de France puissent avoir exactement les mêmes procédures, de manière à ce que d'un diocèse à l'autre, il n'y ait pas de différence. Les différences qu'on verra, ce seront effectivement les différences de personnalité de l'évêque ou bien de prise de parole médiatique. Mais j'allais dire que c'est secondaire.
Il y a une cellule d'écoute, hein, qui a été mise en place dans les Alpes d'Haute-Provence. Est-ce que vous savez combien de victimes ont pu témoigner ? Est-ce qu'il y a des affaires qui sont en cours ?
Alors, moi, j'ai fait le choix, concernant toutes les affaires, justement, c'est pour l'instant d'absolument rien dire tant que j'ai pas une connaissance des personnes. C'est-à-dire que, bien sûr, qu'il y a d'un côté des dossiers, mais les personnes ne sont pas des dossiers. Et donc, je souhaite d'abord rencontrer les gens. Lorsque j'aurai fait un état des lieux, je prendrai rendez-vous avec le procureur de la République et le président du tribunal pour qu'on travaille sur les dossiers eux-mêmes qui existent et comment on les fait avancer une fois que j'aurai rencontré les personnes. Et puis, y a aussi le travail moi que je voudrais faire sur la constitution d'un comité d'experts. C'est-à-dire de personnes qui pourront me renseigner. Alors peut-être que ça ne se fera pas seulement dans le diocèse de Digne. Justement, il est possible que je sois en lien avec le diocèse de Nice, donc avec le diocèse de mon prédécesseur, qui a plus de moyens, hein, au sens où il y a plus d'anciens procureurs de la République, policiers, psychiatres, qui pourront constituer ce comité d'experts pour nous renseigner sur des cas précis. Qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Et donc, voilà, il y aura effectivement une cellule d'écoute et de signalement. Moi, j'aime bien dire écoute et signalement, parce que nous ne sommes pas des psychologues. On est là pour écouter et pour agir. Un comité d'experts pour savoir ce qu'il faut faire.
Dernière question, Mgr Gobillard. Vous êtes un évêque moderne, si je peux dire, puisque vous avez pratiqué la moto. D'ailleurs, vous avez eu un accident de moto qui vous a laissé hospitalisé pendant un an, si je ne me trompe pas. Vous êtes aussi un sportif, ailier gauche en football. Cette modernité, vous comptez l'apporter aussi dans votre exercice ?
C'est-à-dire que moi, la modernité, je suis pas meilleur évêque parce que je suis motard ou footballeur, vous voyez. Ça c'est clair. En revanche, ça fait partie de mon équilibre de vie. Ça fait aussi partie du fait que c'est un lieu de contact avec les personnes qui sont très loin parfois de nos réalités. Hein. Quand je fais du sport, je vois des gens qui sont de toutes les confessions, de toutes les religions, qui sont athées, et je trouve que ça nous fait du bien d'être au contact avec des gens que comme nous normaux, enfin voilà, qu'on soit dans un cadre normal, pas dans un cadre ecclésial, religieux. Voilà, ça fait beaucoup de bien.
Merci beaucoup, Mgr Emmanuel Gobillard, d'avoir été avec nous ce matin, nouvel évêque du diocèse de Digne-Riez et Sisteron.